un bouge, avec une trappe dans le pavement qui ouvre sur une espèce de ravin, de réservoir, de boyaux souterrains, utilisé depuis des temps immémoriaux pour y entreposer des marchandises de contrebande. À l'humidité inquiétante parce qu'il touche aux égouts collecteurs de Paris, labyrinthe du crime. Et les vieux murs sud indicibles miasmes, si bien qu'il suffit avec l'aide de Luciano, très fidèle dans le mal, de pratiquer un trou dans le mur. Et l'eau entre à flot, inonde le sous-sol, fait crouler les murs déjà branlants, et le ravin se confond avec le reste des collecteurs, où surnagent à présent des rats gras putréfiés. La surface noire qu'on entrevoit du haut de la trappe est désormais le vestibule de la perdition nocturne. Très loin, la Seine, puis la mer. De la trappe pend une échelle assurée au bord supérieur, et sur celle-ci, à fleur d'eau, Luciano s'installe avec un couteau. Une main ferme sur le premier barreau, l'autre qui serre le coutelas, la troisième prête à saisir la victime. « Maintenant, attends, et en silence, lui dis-je, tu verras. » « Je t'ai convaincu d'éliminer tous les hommes avec une cicatrice. Viens avec moi, sois mienne à jamais. Éliminons ces présences importunes. Je sais bien que tu ne les aimes pas. Tu me l'as dit, nous resterons toi et moi et les courants souterrains. Tu viens d'entrer, hautaine comme une vestale, recroquevillée, racornie comme une mégère. Ô vision d'enfer, toi qui secoues mes lombes centenaires et me serres la poitrine dans l'étau du désir, ô splendide mulâtresse, instrument de ma perdition. De mes mains crochues, je lacère ma chemise de fine batiste qui pare ma poitrine. De mes ongles, je strie ma pollution sanglante tandis qu'une brûlure atroce incendie mes lèvres froides comme les mains du serpent. Un sourd rugissement monte des plus noires cavernes de mon âme et jaillit de la rangée de mes dents cruelles. Moi, centaure vomi du tartare, et le vol d'une salamandre est presque inaudible, car je retiens mon hurlement et je m'approche de toi avec un sourire atroce. Ma chérie, ma Sophia, te dis-je plein de la grâce féline avec laquelle seul sait parler le chef secret de l'Ocrana. Viens, je t'attendais. Blottis-toi avec moi dans la ténèbre et attends. Et tu ris, recroquevillée, visqueuse, savourant à l'avance quelque héritage ou butin, un manuscrit des protocoles avant Brozard, comme tu sais bien masquer derrière ce visage d'ange ta nature de démon, pudiquement bandé par des blue jeans androgynes, le t-shirt presque transparent qui toutefois cache le lys infâme imprimé sur ta chair blanche par le bourreau de Lille. Est arrivé le premier saut, par moi attiré dans le piège. J'aperçois difficilement ses traits, sous la cape qui l'enveloppe, mais il me montre le signe des Templiers de Provins. C'est Soapès, le sicaire du groupe de Thomas.
« Comte, me dit-il, le moment est venu. Pendant trop d'années, nous avons erré, dispersé de par le monde, vous avez le fragment final du message, moi celui qui apparut au début du grand jeu. Mais ceci est une autre histoire, réunissons nos forces et les autres. » Je complète sa phrase. « Les autres, aux enfers. Va, frère, au centre de la pièce, il y a un écrin, dans l'écrin, ce que tu cherches depuis des siècles. N'aie peur de l'obscurité, elle ne nous menace pas, mais nous protège. »
Le sot dirige ses pas presque à l'aveuglette. Un bruit sourd, étouffé.
Il est tombé dans la trappe.
À fleur d'eau, Luciano le saisit et lui donne du tranchant de salame, une coupure éclair à la gorge. Le gargouillis du sang se confond avec le bouillonnement du purin chtonien. On frappe à la porte.
C'est toi, d'Israéli ?
Oui, me répond l'inconnu, dans lequel mes lecteurs auront reconnu le grand maître du groupe anglais, désormais parvenu au fait du pouvoir, mais encore insatisfait. Il parle.
My lord, it is as less to deny because it's impossible to conceal that a great part of Europe is covered with a network of these secret societies, just as the superficies of the earth is now being covered with railroad.
Tu l'as déjà dit aux communes, 14 juillet 1856, rien ne m'échappe, venons-en au fait. Le juif béconien jure entre ses dents, il poursuit.
Ils sont très nombreux, les 36 invisibles sont à présent 360, multiplie par deux, 720, soustrait les 120 années au terme desquelles s'ouvrent les portes. Et tu as 600, comme la charge de la balakava.
Diable d'homme, la science des nombres n'a pas de secret pour lui.
Eh bien, nous avons l'or, toi la carte, unissons-nous et nous serons invisibles.
D'un geste hiératique, je lui montre du doigt l'écrin fantasmatique. Aveuglé par sa convoitise, il croit l'apercevoir dans l'ombre, il s'avance, tombe. J'entends le sinistre éclair de la lame de Luciano, et malgré la ténèbre, je vois le râle qui luit dans la pupille muette de l'anglais. Justice est faite. J'attends le troisième. L'homme des rose-croix français. Mon faucon de Villars, prêt à trahir, j'en suis déjà prévenu, les secrets de sa secte.
« Je suis le comte de Gabalis, se présente-t-il, menteur et fat. »
J'ai peu de mots à susurrer pour l'induire à se diriger vers son destin. Il tombe, et Luciano, avide de sang, accomplit sa besogne.
« Tu souris avec moi dans l'ombre, et tu me dis que tu es mienne, et tu seras mon secret. Mets-toi le doigt dans l'œil sinistre caricature de la Sekina. Oui, je suis ton Simon. Attends, tu ignores encore le meilleur, et quand tu le sauras, tu auras cessé de le savoir. »
Qu'ajouter ? Un à un entre les autres. Le père Bresciani m'avait informé que pour représenter les illuminés allemands viendrait Babette d'Interlaken, arrière-petite-fille de Weisbehaupt, la grande vierge du communisme helvétique, élevée dans la ripaille, la rapine et le sang, experte à ravir les secrets impénétrables, à ouvrir les dépêches sans en violer les sceaux, à administrer les poisons selon les ordres de sa secte. Entre donc le jeune Agathodémon du crime. Elle est enveloppée d'une fourrure d'ours blanc. Ses longs cheveux blonds fluides dessous son colbac crâneur, regard hautain, mine sarcastique, et avec l'habituelle manœuvre, je la dirige vers sa perdition. Ah, ironie du langage. Ce don que la nature nous a fait pour taire les secrets de notre âme.
L'illuminé tombe victime de l'obscurité. Je l'entends éructer d'horribles jurons, l'impénitente, tandis que Luciano lui retourne deux fois le couteau dans le cœur. Déjà vu, déjà vu. C'est le tour de Nilus, qui pendant un instant avait cru avoir et la tsarine et la carte. Sale moine luxurieux, tu voulais l'antéchrist? Il se trouve devant toi, mais tu l'ignores.
Et je le conduis aveugle au milieu de mille mystiques cajoleries au piège infâme qui l'attend. Luciano lui ouvre la poitrine d'une blessure en forme de croix. Il s'abîme dans le sommeil éternel. Je dois surmonter l'ancestrale méfiance du dernier, le sage de Sion, qui prétend être Ahasvérus, le juif errant, comme moi immortel. Il n'a pas confiance, alors qu'il sourit onctueux, la barbe encore souillée du sang des tendres créatures chrétiennes dont il est habitué à faire carnage dans le cimetière de Prague. Il sait que je suis Rakowski. Il faut que je le dépasse en astuce. Je lui laisse entendre que l'écrin ne contient pas seulement la carte, mais aussi des diamants bruts, encore à tailler. Je sais la fascination qu'exercent les diamants bruts sur cette engeance déicide. Il va vers son destin entraîné par sa cupidité, et c'est à son dieu cruel et vindicatif qu'il lance des imprécations tout en mourant, transpercé comme Hiram, et lancer ses imprécations lui-même malaisé parce que, de son dieu, il ne parvient pas à prononcer le nom. Naïf, moi qui croyais avoir mené le grand œuvre à son terme. Comme heurté par un tourbillon, une fois encore s'ouvre la porte du bouge et apparaît une silhouette au visage livide, les mains dévotement racornies sur la poitrine, regard furtif, qui ne réussit pas à cacher sa nature, parce qu'elle s'habille des noirs habits de sa noire compagnie, un fils de Loyola. « Crétino !» m'écriai-je, induit en erreur. Il lève la main en un geste hypocrite de bénédiction. « Je ne suis pas celui que je suis, » me dit-il avec un sourire qui n'a plus rien d'humain. C'est vrai, ce fut de tout temps leur technique. Tantôt, ils nient eux-mêmes leur propre existence. Tantôt, ils proclament la puissance de leur ordre pour intimider le couard. « Nous sommes toujours autres que ce que vous pensez, fils de Bélial, » dit à présent ce séducteur de souverain. « Mais toi, ô Saint-Germain, comment sais-tu qui je suis vraiment ?» demandai-je troublé. Il sourit menaçant. « Tu m'as connu en d'autres temps, quand tu as cherché à m'éloigner du chevet de Postel. Quand, sous le nom d'abbé d'Herblay, je t'ai amené à terminer une de tes incarnations au cœur de la Bastille. Oh, comme je sens encore sur mon visage le masque de fer auquel la compagnie, avec l'aide de Colbert, m'avait condamné. Tu m'as connu quand j'espionnais tes conciliabules avec Dolbach et Condorcet.
Rodin ? M'exclamai-je comme frappé par la foudre. Oui, Rodin, le général secret des Jésuites. Rodin, que tu ne tromperas pas en le faisant tomber dans la trappe, ainsi que tu l'as fait avec les autres naïfs.
Sache, ô Saint-Germain, qu'il n'est crime, artifice néfaste, piège criminel, que nous n'ayons inventé avant vous,
pour la plus grande gloire de notre Dieu qui justifie les moyens. Que de têtes couronnées n'avons-nous pas fait tomber dans la nuit qui n'a pas de matin, dans des leurres bien plus raffinées pour obtenir la domination du monde, et maintenant tu veux empêcher que, à un pas du but, nous ne mettions nos mains rapaces sur le secret qui meut depuis 5 siècles l'histoire du monde ?
Rodin, en parlant de la sorte, devient épouvantable. Tous ses instincts d'ambition sanguinaire, sacrilège, exégrable, qui s'étaient manifestés chez les papes de la Renaissance, transparaissent à présent sur le front de ce fils d'Ignace.
Je vois juste. Une soif de domination insatiable agite son sang impur. Une sueur brûlante l'inonde. Une espèce de vapeur nauséabonde se répand autour de lui.
Comment frapper ce dernier ennemi ? Je me rappelle à l'intuition inattendue qui seul sait nourrir celui pour qui l'esprit humain depuis des siècles n'a pas de replis inviolés.